Située dans le golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire s'étend sur une superficie de 322 462 km², avec son climat tropical humide, elle dispose de 17 millions d'hectares de terres cultivables pour une population estimée à un peu plus de 18 millions d'habitants. Ici, comme ailleurs, dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, l'heure est à la recherche de l'autonomie énergétique pour réduire la dépendance au pétrole et au gaz. Et pour asseoir cette autonomie, la production de biocarburants est apparue comme une nécessité. Mais alors, qu'appelle-t-on biocarburant et quels en sont les différents types? Monsieur Pacom Chau, chargé d'études à la direction des énergies renouvelables au ministère des Mines et Énergie.
Les biocarburants, ce sont des carburants qui sont produits à partir de plantes. Disons qu'il y en a trois principaux types normalement. Il y a les biocarburants liquides, deux types, donc généralement le bioéthanol et le biodiesel. Puis il y a le biocarburant gazeux, ce qu'on appelle aussi le biogaz, qui peut être utilisé comme carburant. Pour le bioéthanol, c'est de l'alcool. Vous savez que l'alcool, ça brûle, donc ça peut être utilisé dans les véhicules comme carburant, généralement dans les véhicules à essence. Il y a l'autre type, le biodiesel, c'est de l'huile qu'on peut extraire. Vous savez que au niveau des plantes, il y a plein de plantes qui donnent de l'huile. L'huile de palme, l'huile d'arachide, l'huile de coton. Donc il y a ces huiles-là qui peuvent être utilisées comme carburant. Dans certains cas, on peut les utiliser purs, mais dans d'autres, il faut procéder à une petite transformation, quelquefois à certaines réactions chimiques avant de pouvoir les utiliser. Il y a même l'huile de jatropha, c'est de l'huile qui peut être directement utilisée dans certains cas comme carburant et peut être raffinée aussi avant d'être utilisée. En plus du bioéthanol qui est utilisé dans les véhicules à essence et du biodiesel qui est utilisé dans les véhicules diesel, il y a aussi la possibilité d'utiliser le biogaz. C'est du gaz qui est produit à partir de résidus agricoles. Par fermentation, on obtient donc du gaz. Une fois il est purifié, on peut l'utiliser aussi comme carburant dans les véhicules qui utilisent le gaz.
La nécessité de recourir aux biocarburants va assurément créer un engouement au sein de la population paysanne, surtout que cette population a du mal à commercialiser des cultures pérennes traditionnelles telles que le café et le cacao. Dès lors, il est à craindre que les zones humides favorables à la production agricole ne soient de plus en plus sollicitées. Mais qu'est-ce qu'une zone humide? Monsieur Groga Camille, point focal de la Convention de Ramsar en Côte d'Ivoire.
Selon la Convention de Ramsar, on appelle zone humide toute étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelle ou artificielle. Ces eaux doivent être permanentes ou temporaires et l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée. Ces étendues comprennent aussi les étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres.
Il convient de noter qu'en Côte d'Ivoire, il y a des zones humides qui ont été spécifiquement classées site Ramsar d'importance internationale par le secrétariat de la Convention de Ramsar. Plus de précisions avec M. Groga Camille.
Dans le monde, au dernier recensement, nous avons 1755 zones humides classées site Ramsar d'importance internationale qui font une superficie de 161 millions d'hectares. Et parmi ces 1755 zones humides, 6 sont d'origine ivoirienne. Et le premier site qui a été classé en Côte d'Ivoire, c'est le parc national d'Azani. C'est en 1995. Ensuite, en 2005, donc 10 années plus tard, 5 autres sites ont été rajoutés. Ce sont des complexes. Le complexe Eotile et Souma, le complexe d'Abego, Gandangada, Fresco et Grand Bassam.
Mais quel intérêt la Convention de Ramsar a-t-elle à protéger ces zones?
Outre l'aspect agricole, les zones humides servent à la biodiversité, au tourisme, à l'eau à usage domestique, au transport ou à la navigation fluviale et ça sert aussi au bien-être de notre santé. En plus, on y monte des barrages hydroélectriques.
Est-il raisonnable de sacrifier toutes ces potentialités au profit de la seule production de biocarburants?
Non, je suis catégorique, non. Parce que si nous détruisons les zones humides, nous détruisons l'essence même de la vie. Parce que comme on le dit, pas d'eau, pas de vie.
Pour comprendre l'impact des biocarburants sur ces zones, nous nous sommes rendus à Tiassalé, à Adzopé et à Boisseau. Dans ces trois localités, la tendance est pour le jatropha, plante dont la culture, selon certains témoignages, a été introduite dans ces zones visitées par des opérateurs économiques privés, quelquefois avec des arguments riches en promesses. Monsieur Assamoah Prosper, vendeur de semences de jatropha à Adzopé.
Il y a plusieurs structures qui amènent les semences. Il y a des semences venant de la Chine, Brésil, Mali et Afrique du Sud aussi. Chaque pays vient et nous dit que c'est pour eux qui est la meilleure qualité.
Monsieur Asokwe Samuel, directeur départemental de l'agriculture d'Azopé.
Le Jatropha, ça c'est des cultures qu'on voyait souvent derrière nos cases. Les Chinois, les Japonais nous ont fait découvrir aujourd'hui que ça peut nous aider à avoir beaucoup d'argent. Donc c'est l'occasion qui est donnée à tout chacun de faire la production. On produit, quant à la vente, on va voir comment ça va s'écouler. Mais pour l'heure, il faut produire, pour ne pas avoir à se gratter la tête et dire « Ah, le truc là, si je savais, j'allais le faire !» Et donc tout le monde est encouragé à le faire.
Très vite, le Jatropha a gagné du terrain. Plusieurs hectares de terre lui sont déjà consacrés. Les populations y voient une nouvelle source de revenus.
Je m'appelle Kwasiwa. Je pense que le bio carburant nous permettra d'avoir une évolution parce que actuellement, pour avoir le carburant, c'est pas facile.
Monsieur Confrançois, au lieu de s'asseoir pour chômer, peut-être casser les portes des gens, si tout jeune peut avoir quelque chose à faire, ça c'est encore bien.
Cet espoir est plus grand chez ceux qu'il convient d'appeler désormais jatrophaculteurs.
À Mongeta Anne-Marie. Le prix de Jatropha pour moi doit dépasser celui du café, du cacao, parce que le pétrole ou l'essence coûte très cher ici en Côte d'Ivoire.
Tati Kadieu Etienne, ce qui est en production, c'est 1,5 hectare. Et ce que je suis en train de planter cette année fait 2 hectares. Si vraiment c'est favorable pour la commercialisation, je compte mettre au moins une parcelle de 10 hectares rien qu'en Jatropha.
Kadieu à moi, Sylvie. Pour le moment, j'ai fait 1 hectare. Si aujourd'hui, quelqu'un me dit, tiens, on veut acheter le Jatropha, bon, voici les moyens pour faire le champ. Je peux même fermer ce magasin pour aller travailler. Ça, je suis prêt à partir au champ.
En plus de ses atouts économiques, le Jatropha, à l'image des autres biocarburants, offre d'autres opportunités. Dr Koulibaly Brahima, ingénieur agronome.
Les biocarburants, effectivement, si on arrive à bien encadrer ça et à aller jusqu'à l'aspect qui est la transformation, parce que j'insiste dessus, je pense que c'est des opportunités pour la Côte d'Ivoire, pour des jeunes, pour des producteurs, pour des innovateurs, pour le développement local, pour le développement régional et pourquoi pas pour l'international, c'est des opportunités.
Malgré ces avantages, le gouvernement ivoirien n'a pas encore défini de filière pour les biocarburants. Résultat, les paysans sont abandonnés à leur sort. Pour certains d'entre eux, les premières récoltes de Jatropha attendent encore d'éventuels acheteurs. Témoignage de ce Jatropha culteur de Tiassalé.
C'est maintenant que j'ai commencé à récolter. On n'a pas d'acheteur, on n'a pas un circuit de commercialisation. C'est comme on est en train de travailler comme on travaillerait le varan. Quand il fait ses buts, lui-même prend sa queue après pour les détruire.
Manque d'informations ou refus de vendre, pourrait-on se demander. Car les prix, on en parle. Monsieur Tao Maurice, du groupe Éternelle Industrie, une ONG qui s'apprête à pratiquer un prix d'achat.
Nous fixons le prix du kilo de Jatropha en fonction du marché mondial. Sur le marché mondial aujourd'hui, le prix du litre de Jatropha avoisine 200 francs. Or, il faut 3 kilos pour faire un litre d'huile de Jatropha. C'est pour cela que dans nos prospectus que nous avons donnés à nos paysans, on leur a fait comprendre avant même qu'ils ne cultivent de Jatropha que nous leur rachèterons le kilo à 66 francs.
Pour M. Jean-Luc Roger Manou, entrepreneur privé de développement agricole, il existe plusieurs prix. Cela traduit le désordre qui règne dans le milieu du Jatropha.
Aujourd'hui, sur le plan international, le kilogramme du Jatropha se négocie entre 50 et 150 francs. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de structure déclarée comme le cas du cacao où le paysan, sans avoir pris attache avec X ou X personnes, sans être allé sur le net, peut prendre son Jatropha depuis sa brousse et venir le vendre avec un prix du jour qui est indiqué dans les journaux comme dans le cas du cacao. Le constat que nous faisons, c'est que nous avons des opérateurs privés qui donnent l'information qui cherchent du Jatropha à payer à tel ou tel prix. Donc la structure des prix n'est pas fixe. Que ce soit le GEI de M. Assovier qui peut vous livrer le Jatropha entre 81 et 100 francs le kilogramme, M. Fofana de Agri-Aménagiste à Korogo qui vous propose 200 francs le kilogramme, mais est-ce qu'on parle du même paysan? Parce que dans un même territoire donné qui est la Côte d'Ivoire, les prix varient d'un producteur à un autre. C'est pour dire que tant qu'on n'aura pas une autorité régalienne pour définir une corbeille des prix sur le Jatropha, on va toujours assister à ce désordre.
Fin de la première partie de ce reportage de l'URPCI, Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, avec le concours de la Convention des Ramsar sur les zones humides et de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À la présentation, Lassina Sangaré, son et mixage, Serge Adams Diakité, supervision, Karamoko Bamba, président de l'URPC.